France Inter. Voilà.
Et c'est Roger avec Nerla Cadeau-Boudadi, avec Mélodie Fontaine,
bonjour,
avec Alexis Le Rossignol, avec Paul Mirabel,
bonjour,
Monsieur Tanguy Pastureau et notre invité Michel Télizaz. Bonjour Michel,
bonjour.
Bienvenue à ce micro sur Inter, un peu votre maison finalement, Radio France.
Oui, c'est vrai.
Et faites gaffe, il y a Nathalie Yanetta qui va venir tout à l'heure, la patronne, l'atelière, pour parler de sport. Vivre de sport, c'est le résumé de votre vie pour rester en forme. C'est pas un livre sur le coaching, on va en parler, mais c'est votre manière à vous de vous raconter et surtout de raconter votre nouvelle vie depuis la retraite foot. On peut pas vraiment parler de retraite
non. Quand
on voit le résultat. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, la musique.
Oui.
D'abord, vous faites du sport en musique ou pas? Vous écoutez beaucoup de musique?
Tout le temps.
Tout le temps,
ouais. Ah,
très bien.
Donc sont vous... toujours les mêmes ou vous changez?
Souvent, c'est plutôt métal, plutôt ACDC, Metallica, des trucs...
Un truc qui donne envie de dormir, ouais.
J'aurais fait, j'aurais fait une autre playlist pour l'instant, mais là, qui chante ça?
Les Beach Boys, là.
Oui, bien joué.
Faire tous les sports de...
Oh, ouais, tu me connais trop bien.
Je crois.
Et là, qui chante?
Ah là là, si.
Tanguy.
Attends,
on va ouvrir ton micro, Tanguy.
Oui.
On va ouvrir ton micro, ça va beaucoup mieux.
David Bowie.
Non, Jonas.
Jonas, pardon.
Non plus.
Oui. Alain Souchon.
Non.
Non plus. Écoutez.
Leila.
Chante
pas.
Non. Tu dis c'est
dommage.
Ça, c'est la même.
William Scheller.
William Scheller.
Et là, ça marche?
Oui, très bien. Ah non, mais.
Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi les choses qui vont bien.
Je cours, non.
Stop, non. Le micro était. Donc je dis à la régie, pourquoi? Et on me répond, son micro était fermé. Ce qui est, j'adore ce pragmatisme et cette logique. En fait, ma question, c'était pourquoi était-il fermé? Pas pourquoi on l'entendait pas. Je sais que quand on n'entend pas quelqu'un, c'est que.
On va régler ça plus tard.
Oui, je trouve ça trop drôle. Je vais
Tanguy.
Qui?
Claude Nougaro.
Oui, quatre boules de cuir.
Voilà.
Quatre boules de cuir. Box. Sur quatre pieds de guerre, bombarde le plexus.
Ah là, oui.
Box. Ok. L'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir.
Qui chante ça plus dur?
Non, bien sûr.
Bah, Paul, t'es totalement largué, hein?
Non, non, non.
Si. Tanguy, c'est Étienne Daho, ça.
Joli!
Ouais. Serre-moi fort, je suis.
Non, la nage indienne. Non,
la
c'est
nage indienne. Oui. Non, non, mais c'est dans le refrain, je veux dire. Ouais.
C'est très fort.
Très fort.
Bravo.
Heureusement que le micro est ouvert. On y serait encore.
Qui chante ça?
Si, on connaît ça.
Alexis, Led Zeppelin?
Non. Ah, ça pourrait, c'est vrai. C'est français.
Tanguy,
c'est chez Souchon.
Alain Souchon,
oui.
Là, il a l'a dit.
On avance à rien. Qu'est-ce qu'on a fait comme sport? On a fait surf, course, boxe, nage, ram. Il y a aussi ce titre.
Alexis, Jean Ferrat.
C'est pas ce que tu voulais?
Tu m'achètes?
Non. Jean Ferrat, non.
Tanguy, c'est Vincent Delerme.
Oui,
ouais.
La natation synchronisée.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'adore ça.
Natation synchronisée, non, c'est pas ça.
Oh, si.
Ah non, mais j'ai pas dit que c'est des sports que vous pratiquez. Attention, tout ça va se jouer avec le dernier titre. Je vous demande l'interprète. Pas le titre, mais l'interprète.
Tanguy.
C'est bien de faire du sport, Michel T.
Très bien.
Tanguy.
Non, non. J'allais dire Sex Pistols.
Non.
Non.
C'est français?
Non.
Leila, c'est The Boss?
Non.
Bruce Springsteen?
Ça ressemble à The Boss.
C'est une chanson de Springsteen, écoutez bien.
Ah.
Ah oui. C'est Bowie, Bowie qui chante Springsteen?
Non, non, c'est un groupe qui a eu un énorme
Zem.
Succès. Avec un titre qui s'appelait Relax.
Frank et Ghost to Hollywood.
Exactement.
On n'aurait pas reconnu à la voix du chanteur, hein, franchement.
Non, non, mais écoute cette version.
Ouais.
Ah, celle de Bruce, c'est mieux.
Ouais. Forcément, c'est Bruce.
Bah alors, pourquoi cette version, Nagui?
Parce que je voulais vous surprendre un peu et sortir des sentiers battus.
Mais c'est décevant.
De Tanguy Passion, on n'aura pas, écoute, t'as gagné.
Bravo,
Tanguy.
Bravo.
C'est super. Avec Nagui et Leila Kadour.
Michel Télizarazou, vous publiez chez Flammarion le guide du parfait utilisateur de Photoshop. Et ça, c'est fort quand même, réussir à publier toutes ces photos et à montrer comment on peut avoir des abdos, des pecs, des biceps, des triceps, des quadriceps, des quintes.
Il y a plein de trucs.
Il y a des seps qu'on connaissait même pas, nous.
Est-ce que ça, c'est pas juste la conséquence du sport qu'on fait?
Tu crois?
Est-ce qu'on recherche ça réellement?
Ça, bah alors, c'est question, voilà. Justement.
Ça aide.
Que voulez, ouais. Que cherchez-vous, Bicente Elizarazu, à rester en forme et à vivre, parce que vivre de sport, il y a vivre, et rester en forme et ne pas voir le temps qui passe, puisque vous n'aimez pas l'expression de vieillir, vous ne voulez pas que le temps n'ait d'emprise sur vous, rester en forme, c'est ça votre moteur?
Par rapport à ce livre, il y a plusieurs...
Non, par rapport à déjà votre vie.
Oui, par rapport à ma vie, c'est ça, c'est rester en forme, c'est lutter contre le temps qui passe, probablement.
Et vous le sentez? Enfin, on le sent tous, mais non, franchement, quand on est sportif de haut niveau, est-ce que...
Après, je m'adapte aussi au temps qui passe, c'est-à-dire que je suis lucide, je vieillis comme tout le monde, donc je peux plus être footballeur, j'ai accepté l'idée d'être plus être footballeur, il y a une lettre au foot, c'est fini pour moi, et j'ai aucun regret, je suis.
Et vous savez exactement quel jour, quelle heure, à quel moment, à quel endroit vous êtes dit, là, il faut que j'arrête?
Non, c'est très compliqué en fait, cette décision-là, elle est très compliquée parce que ça peut être physique, ça peut être mental, je savais pas. Si c'était physique ou mental, je pense que c'était mental. Avec du recul, je pense que c'était mental. Je pense que j'étais saturé. Saturé du manque de liberté. Je saturais d'être dans un collectif, dans une structure où on décide pour toi. Ouais. Et j'en avais marre de ça. Je voulais être libre, je voulais être indépendant et prendre mon bateau et faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc je pense pas que c'était physique, parce que quand je me suis mis à faire d'autres sports, je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'il y a une saturation mentale.
Et justement, le mental est important. Cette énergie, vous aviez besoin de la qu'elle s'exprime, qu'elle sorte.
J'ai toujours eu besoin, en fait.
Sinon, franchement, si vous faites pas de sport, vous dormez mal.
Si je fais pas de sport, je...
Déjà, vous dormez pas très bien, toujours, déjà.
C'est vrai. Déjà. Si je fais pas de sport, je suis
comment
un peu plus nerveux.
Bah non, c'est dans le livre. Non, je me permettrai pas.
Non, je pense que le sport a toujours été important.
En plus, tu ronfles et puis tu mets toujours du côté où je veux être.
Non, ça a toujours été important, en fait, pour moi. J'étais un gamin hyperactif, donc je m'exprimais dans le sport. J'étais heureux quand je faisais du sport, je voyais que j'étais doué. En plus, bon, j'étais un peu le chouchou des copains parce que j'étais bon en sport. Enfin, donc, ils voulaient m'avoir avec eux.
Tout n'était pas facile au début non plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y avait des doutes aussi sur votre taille, votre gabarit, sur le regard de certains. Oui, c'est ça.
Oui, ça n'a pas été un problème quand j'étais jeune et avec mes copains.
Non, mais il y a deux exemples qui peuvent rassurer beaucoup de personnes.
J'étais le plus petit, mais j'étais le meilleur en sport.
C'est ça.
Par contre, quand je suis rentré au centre de formation, à l'âge de 15 ans, un coach a convoqué mes parents pour leur dire « Bon, votre fils, il ne pourra pas être footballeur professionnel, il ne peut pas rêver, il est trop petit, il n'a pas les qualités athlétiques pour ça. »
Ce qu'on a dit aussi à Griezmann, ce qu'on a dit aussi à Messi.
À Maradona.
Et on dit toujours ça. Il y a des éducateurs qui disent toujours ça.
Maradona lui dit « Arrête la coque. »
Il se trouve que j'étais un peu en retard.
Vous êtes trop petit aussi.
C'est vrai.
J'étais en retard par rapport aux autres sur le plan physiologique. Il m'a fallu 2 ans de plus par rapport aux autres, tout simplement. Donc, ça
et vous croisiez à l'époque à l'aviron Bayonné,
Didier Deschamps, oui.
Qui avait une
mais en fait,
adulte,
on jouait presque l'un contre l'autre. Didier avait 1 an de plus que moi. Lui, pour le coup, il faisait 2 têtes de plus que les autres. Bon, moi, j'étais le plus petit, lui, c'était le plus grand. Il était déjà barbu. Enfin, il était comme il est aujourd'hui. Voilà.
Il était déjà vieux.
Ouais, il était comme il est aujourd'hui.
Blanc,
il n'a pas bougé. Bon, moi non plus, hein, j'étais petit, je suis resté petit. Mais c'était un peu le phénomène de foire, Didier, parce qu'il mettait des frappes de balles de 30 mètres, des transversales de 40 mètres. Et on pensait même qu'il n'avait pas l'âge qu'il disait. Et donc,
Mais il est pas gigantesque, Didier Deschamps.
Ah non, mais il a pas bougé.
Non, mais il était en avance. Il était déjà grand et après il est resté à 1m74, 75, comme aujourd'hui. Est-ce que vous évoquez et par tous les sports que vous pratiquez, finalement les souvenirs aussi de votre vie, de votre parcours, les endroits, les bruits. Moi, il y a un truc qui m'a parlé. C'est la porte du garage qui est un but et elle fait un bruit particulier. particulier quand on marque un but et que le ballon va taper dans la porte du garage. Ça, c'est un truc de minot qui joue dans la rue.
Oui, ça c'est mon père était menuisier charpentier, donc il y avait la porte du garage, de l'atelier, et je m'entraînais pendant des heures et des heures à frapper contre cette porte de garage. Le ballon revenait, je faisais contrôle, frappe.
Il y avait personne dans les buts.
Il y avait personne.
Ah ouais.
Non, mais c'est juste la frappe de balle et le contrôle derrière.
Okay.
Et de la même façon, je prenais des bouts de bois et je me faisais des circuits pour faire des dribbles et apprendre
seul.
À dribbler tout seul. Tout seul, c'est dire à quel point, à un moment donné, c'est plus fort que toi. J'avais pas besoin de coach. Je voulais être champion. Alors, je faisais du foot, je faisais du tennis, je faisais de la pelote basque, je faisais tout. Vraiment, je faisais tout. J'étais heureux dans le sport. Et dans ma tête, c'est je veux être un champion. Mais je savais pas de quoi. Et à un moment donné, voilà, je me suis entraîné dans tout.
Ouais.
Et puis un jour, un recruteur des Girondins, voilà, est venu à la maison pour dire.
Ça aurait pu être n'importe quel sport, en fait.
Ça aurait peut-être pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'étais, le sport, c'était mon truc. Ça aurait peut-être pu être un autre sport, mais ça a été le foot. Et quand
est-ce
le recruteur
ça aurait pu être le rugby,
arrivé.
Parce qu'on est quand même dans une région de rugby aussi.
Ouais. Mais avec Didier, c'est miraculeux, en fait. Nous venons d'une région de rugby et nous sommes des dissidents. C'est un miracle que l'on ait fait cette carrière dans le foot, qu'on soit champion du monde de foot alors que c'est un pays de rugby. Voilà. Et donc, voilà, le recruteur des Girondins de Bordeaux est arrivé. Il a dit, voilà, votre fils, il a du talent. On veut qu'il se rende au centre de formation des Girondins. Ma mère, elle était en larmes. Et moi, derrière, j'étais comme ça. Ouais. J'étais trop content.
Je me casse et j'y vais. Et là, vous avez quel âge?
J'ai 13 ans.
Waouh! Mais c'est vrai que de demander à une maman de comprendre que son fils doit partir.
Ma fille a 15 ans aujourd'hui, c'est pas possible qu'elle parte de la maison. Même quand elle aura 30 ans, ça sera pas possible.
C'est moche.
Je veux me la garder.
Ça porte un nom, c'est de la séquestration.
Voilà, c'est ça. Vivre de sport pour rester en forme. Michel Télizarazo, on va parler de tout ce qu'il y a dans ce livre aussi, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'histoires racontées autour du sport et beaucoup d'anecdotes personnelles aussi sur votre parcours et votre amour du sport et surtout de la nature et de la glisse. On va en parler, c'est chez Flammarion, je le rappelle. Mais d'abord, voici Mélodie Fontaine. Parce que Mélodie, vous n'auriez pas écrit un livre comme ça, vous.
Ah non, faut-il que je vous aime? Faut-il que je vous aime pour me tirer ainsi du lit? Hein, quand j'ai reçu le message « Peux-tu remplacer Lisa ?», ce fut douloureux et en même temps jouissif. Un peu comme... Non, je vous vois venir, hein. Non, en fait, le texto était le petit cure-dent qui vient retirer le bigorneau de sa coquille. J'ai glissé de ma couette, comme le petit mollusque luisant qu'on retire de la coque en le faisant tournicoter et glisser sur les bords. Je vous assure, l'image est bonne, hein. Il y a même l'odeur.
Oh,
faut-il que je vous aime, certains plus que d'autres? Faut-il que je vous aime pour vous laisser me refiler la marotte de Lisa? J'aurais pas fait comme ça. C'est pas facile comme exercice, surtout lorsqu'on reçoit le plus célèbre Bichente de France. Le mec qui parle tellement bien de sa passion qu'il donnera envie de faire du sport à un phobique de la transpiration aigre. Pourtant, c'est tellement bon. L'athlète qui change de sport comme on change de slip. En l'occurrence, 3 fois par jour, pour ma part.
Surtout si... Oh non.
Le couteau suisse. Le couteau suisse de la... Bon, ben, je suis à court d'analogie, mais vous avez compris. Par conséquent, j'aimerais changer un peu l'intitulé de la chronique et la remplacer par un mot, je sais pas, moi aussi j'aurais fait comme ça. Première raison, déjà écrire un livre, hein, moi et mon cerveau de batracien. Non mais vous l'entendez bien d'ici, hein, que je sais pas écrire. J'ai mis 2 heures à rédiger l'intro que je lis depuis tout à l'heure. Et oui, je sais, c'est pas dingue. Alors un bouquin, vous imaginez la tronche du truc. Comme vous dites si bien, Bichente, dans votre livre « Vivre de sport », voilà près d'un demi-siècle que le sport rythme... Oui, bah désolé, il est hyper dur à faire votre accent.
Hein,
je suis chroniqueuse, moi, je suis pas Jean Roucas. Du Pays Basque, au Stade de France, de l'océan non plus. Quoi, Leïla? Oui, c'est la première phrase du bouquin. Désolée d'avoir été prévenue la veille, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais bon, j'ai regardé les images quand même. Les images, les belles petites images. Bah ouais, quoi, pour savoir de quoi qu'on cause. Hein. Bon, bref. Ensuite... Un bouquin sur le sport, vous m'avez regardé, la peau de mes bras pendouille comme de la pâte à pizza qui aurait reposé 48 heures. Vous voyez les écureuils volants? Ceux avec la petite membrane là qui leur permettent de planer de branche en branche. Bah, à côté de moi, ils sont jaloux, ils se sentent lésés, ils ont déposé une réclamation, ils veulent réformer l'évolution des espèces de Darwin. Mon ventre est si flasque que j'ai chopé des gosses en train de mettre leurs doigts dedans pour faire de la pâte à poudre. J'avais rien senti. J'ai même pas senti, j'ai pas de nerfs, je me suis rendu compte seulement parce que j'ai entendu le bruit du pet. J'ai baissé baisser les yeux et j'ai essayé. Depuis, j'arrête pas de le faire, c'est vrai que c'est rigolo. Mes fesses, elles commencent à faire la course avec mes épaules. Il y en a une fesse qui se forme au-dessus de mes os du cul. Ça, c'est pratique pour s'asseoir sur une chaise un peu dure. Non, finalement, je sais pas si j'aurais fait le livre comme ça à votre place. Ce que je sais, c'est que je remercie Lisa pour sa présence et Lisa pour son absence. La remplacer au pied levé, c'est bien le seul sport que j'aurais fait cette année.
Bravo. Alors, faut préciser une chose, parce que le problème, c'est que Vicente et Lisa Razou, beaucoup de personnes et de potes l'appellent Lisa, justement.
Ah, donc,
oui.
Alors Lisa c'est la moitié.
Voilà, qui normalement démarre l'émission à cette place-là. Mélodie Fontaine.
Mélodie Fontaine, tu es sur scène mardi pour le dernier mardi.
Mardi prochain, ouais. Ce soir et mardi prochain.
Ce soir et mardi prochain pour, au point virgule.
Oui, c'est bien ça.
Lisa Razou, le surnom Lisa, c'est que dans le football où on vous appelle Lisa?
Ouais, que dans le foot.
Dans tous les autres sports, on vous appelle Vicente
Razou. Ouais, non, c'est venu. Bon, j'ai des surnoms, j'en ai plein.
Ouais.
Petit Bison aussi, dans, en équipe de France,
petit
c'était
bison.
Petit Bison.
Je veux pas savoir quelle soirée.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, voilà, Lisa, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé à Bordeaux.
Ça commence.
La difficulté à prononcer. En fait, c'est Vicente Lissarassu. À chaque fois, je le redis.
Ouais.
Vicente Lissarassu. Et du coup, je pense que c'était un peu compliqué à prononcer. Et du coup, c'est parti sur Lisa et c'était plus simple.
Comme Zizou aussi.
Parce que Vicente,
aussi.
C'est pas toujours facile.
Et Zizou, c'est venu à Bordeaux aussi. C'est Courbis aussi.
Zizou, c'est Roland Courbis, ouais.
Ouais, pareil. Ouais. C'est surnom. Alors, pour en revenir à votre livre, c'est une philosophie que vous voulez transmettre à ceux qui vont le lire, parce que c'est pas du coaching. Vous le dites dès le début.
Ouais. Heureusement.
Non, disons que j'ai pas envie de faire un truc qui soit vraiment une méthode d'entraînement. C'est plus une philosophie de vie.
Ça, vous l'avez fait sur Insta aussi, les exercices.
Oui, mais d'ailleurs, l'idée, elle est un peu partie de ça. C'est-à-dire que période Covid, comme tout le monde, je suis coincé. Et donc, pour moi, c'est
dans la cabane,
très difficile.
Dans la cabane au fond du jardin.
J'ai une cabane, j'ai un dojo. Et donc, j'ai commencé à faire des exercices, des vidéos. Et je vous ai mis sur Instagram. Et je me suis aperçu que les gens, ils réagissaient beaucoup. Ils étaient contents que je leur propose des choses. Parce qu'ils ne savaient pas comment s'entraîner, en fait, quoi faire. Et je me suis dit, c'est quand même curieux. Cette méconnaissance en fait du corps, de l'entraînement, de la préparation physique, et donc j'ai fait ces vidéos. Puis après, je me suis dit, ça serait bien, je fasse un livre. Alors, ouais. Pour plein de raisons, pour moi aussi. La première, c'était moi, c'est-à-dire que j'aime bien ranger mes affaires et comprendre pourquoi je fais les choses. Je l'ai fait sur mon premier livre, sur ma carrière. Mon deuxième livre, c'est la reconversion, et là, c'est sur le sport, cette passion dévorante pour le sport. Pourquoi c'est indispensable à ma vie? Pourquoi je continue à avoir besoin de me sentir athlète? Ben, je pense que c'est d'abord garder l'esprit que j'avais quand j'étais gamin, où je faisais plein de sports différents. C'était respecter ça. Et je suis heureux quand je fais du sport. Et j'ai réussi à bien vivre ma deuxième vie. Cette fameuse petite mort n'a pas été un problème pour moi parce que je continue à être athlète. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Athlète et en contact avec la nature. Parce que dans ce que l'on découvre...
Mais ça, ouais, en l'occurrence, c'est vrai que là, on n'est pas dans le sport compétition. Enfin, le sport dont je parle maintenant, c'est pas le sport compétition. Le sport compétition, c'est quelque chose de différent. C'est tu gagnes, tu perds, c'est les champions, c'est les médailles.
Non mais pardon, les sports que vous avez choisi de pratiquer, que ce soit le vélo, le judo, que ce soit la glisse et que ce soit la glisse à la montagne ou la glisse sur les vagues de Tahiti, c'est chaque fois les éléments naturels qui ont leur importance. Alors peut-être pas sur le jiu-jitsu où là on est vraiment sur un tatami dans un combat et un art martial, mais tous les autres sports ont un rapport avec la nature, se passent dans des lieux différents de la planète. D'ailleurs, ça vous impose presque j'imagine beaucoup de voyages aussi, comme si vous évitiez le sport collectif d'un coup pour être vous retrouver vous et la nature et que tous les deux sans personne d'autre autour qui vous dit quoi faire, peut-être vous conseille dans un premier temps parce que vous aimez apprendre aussi, ça c'est l'un des enseignements de ce livre, mais c'est seul face à la nature, et la nature qui sera toujours plus forte.
Et c'est très beau de faire du sport dans la nature, ça magnifie en fait la situation. Tu fais du vélo, par exemple, sur un col, avec des paysages sublimes. Tu fais du surf en Polynésie française. Tu fais la plongée sous-marine dans la passe de Tiputa avec des requins partout. C'est extraordinaire de pouvoir faire du sport dans la nature. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire du sport en salle. Je pourrais pas être urbain. J'aurais beaucoup de difficultés à faire du sport à Paris. Je comprends que ce soit difficile. Moi, je suis heureux quand je fais du sport
dehors.
Ouais, dehors, le surf, le stand-up paddle, le vélo.
Et donc, en fonction des saisons, c'est pas le même sport.
Oui, alors parce que...
Pour pas se lasser ?
Pour pas se lasser, en fait. Ma méthode, ma façon de m'entraîner, c'est la variété. Je pense que quand tu es dans la routine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, j'en avais marre, dans le foot, de faire toujours la même chose, quand tu es dans la routine, à un moment donné, tu es lassé. Et quand tu changes sans arrêt les exercices, les sports, tu ne peux pas l'être. Et tu t'adaptes aux saisons. L'hiver, ça va être le ski, la randonnée à ski. L'été, ça va être le vélo, le surf. Et voilà, l'hiver, quand il fait mauvais, je vais faire du jiu-jitsu brésilien, c'est de la lutte. Et là, je reste en salle. Mais moi, sinon, je préfère être en extérieur et pratiquer le sport. Même le yoga, je préfère le faire dans un environnement naturel.
Vous parlez beaucoup dans le livre de comment vous avez réussi en ajoutant un peu de yoga, justement, à telle autre pratique, travailler sur la récupération, sur l'étirement, donc vous êtes un technicien du corps, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dégage dans le bouquin.
T'as l'écoute du corps.
Voilà. Chercheur, presque.
Tout le temps.
J'ai toujours été très intéressé par l'entraînement. J'étais toujours hyper chiant, je demandais aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, pourquoi on fait ça? C'était parce que souvent c'est, allez les gars, vous allez faire...
C'est un mot que vous aimez bien, là, pourquoi?
Oui, mais c'était tout le temps comme ça. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va développer en moi? Alors après, moi, je fais l'UREPS, je fais sciences et techniques des activités physiques et sportives dans l'université de Bordeaux. Donc du coup, j'ai vachement bossé l'anatomie, la physiologie. Je m'intéressais beaucoup à l'entraînement. Et après avoir arrêté le foot, je me suis intéressé en faisant plein de sports différents. J'ai découvert plein de méthodes d'entraînement différentes. Le mouvement animal, par exemple, qui est une méthode de gainage dynamique où tu reproduis le mouvement de l'animal.
L'araignée, là.
Voilà, l'araignée, le crocodile, tout ça.
Tellement dur.
Le yoga. Le yoga, enfin, la flexibilité, la souplesse, c'est hyper important. Pourtant, et tu peux la développer avec le yoga, c'est une super...
Avec un père menuisier, vous auriez pu faire la planche, hein, ça aurait été plus simple que de faire...
Oui, j'aurais pu.
Et à quel moment, vous dites, il y a un mot que vous n'aimez pas qu'on vous adresse, c'est la bigorexie, de parler de bigorexie.
C'est la dépendance au sport.
Parler d'addiction.
Addiction extrême.
Extrême, qui fait qu'on se coupe des autres. Et vous dites, je ne le suis pas, au sens où moi, j'ai une vie sociale, je continue à avoir des gens, et ça ne m'empêche pas.
J'ai une pratique qui est consistante, on va dire.
Qui relève de l'addiction.
Et là, je cherche désespérément la page de la semaine idéale. Elle est où la page? Elle
est
où la page?
On est presque déjà dans la maladie, l'addiction, et la bigorexie, c'est pire encore, parce qu'en effet, les mecs partent dans la dépression, ils s'isolent socialement. Moi, c'est pas du tout le cas, je le fais avec des amis, je le partage, je voyage, je découvre. Le sport me permet de faire tellement de choses.
Elle est où la page? Tu dis combien?
100. Quelle page?
Non, mais il y a une page.
Il y a une page que
je vais lire. Lundi matin.
Il y a du repos.
Non. Lundi matin, yoga, gainage, renforcement musculaire. Lundi soir, entraînement
de... Non, c'est où?
Non, il n'y a pas de où. Lundi soir, jiu-jitsu brésilien. Mardi, sortie de vélo, 3 ou 4 heures. Vous racontez même dans le livre que si vous arrivez à 99 km, vous continuez de faire un tour supplémentaire pour franchir les 100.
Ouais, bon, ça, je ne suis pas le seul.
Okay. Ça, c'est le compteur. Ça.
Ça, c'est le compteur. Mardi, mercredi...
Les chiffres ronds.
T'as raison, alors mardi après-midi, il peut regarder des dessins animés à la télé, il est peinard. Mercredi matin, mercredi matin, yoga, gainage, renforcement musculaire. Mercredi soir, entraînement de jiu-jitsu brésilien à nouveau. Jeudi, sortie vélo, 3-4 heures. Vendredi, yoga, gainage, renforcement musculaire. Samedi, sortie vélo, 3-4 heures.
Dimanche,
téléfoot. Non, mais il y a un moment...
Faut pas aimer sa famille, en fait. Hein.
Oui, que dit Claire dans tout ça?
Non, mais Claire, elle m'a connu footballeur professionnel.
Mais vous n'êtes jamais là, vous faites du sport.
Sportif, athlète de haut niveau. Oui. Elle sait, c'est vital pour moi. Donc, elle me laisse faire ce que j'ai envie. Et comme moi, je la laisse... s'exprimer dans l'art, dans la musique,
ce
dans
planning,
tout ça.
Ce planning-là, il est pas
se respecte.
Il est pas tenable. Il est tenable pour personne, ce planning hebdomadaire.
Mais non, il est pas tenable pour tout le monde. Mais après, moi, c'est ma nature profonde. Voilà. J'ai toujours fait ça. Je me suis toujours entraîné. Après, le dosage, en fait, c'est plutôt par rapport à des séances qui sont beaucoup plus cool. Certes, il va y avoir du yoga ou du renforcement musculaire, mais pour moi, c'est du décrassage. Si je fais une sortie de vélo de 3-4 heures, c'est une vraie sortie intense, ou du surf pendant 3-4 heures. C'est intense. Mais par contre, quand je suis dans le yoga ou le renforcement musculaire, pour moi, c'est pas de l'entraînement costaud, c'est plus de la récupération et de l'entretien physique. Et donc, j'essaye de trouver le juste équilibre. Parfois,
pour éviter la blessure, quoi. C'est ça.
Pour moi, le bon entraînement, c'est un entraînement sans blessure. Malgré toute l'expérience que j'ai, comme je suis toujours à chercher la limite, je n'y arrive pas toujours. Et je m'en veux quand je me blesse. Évidemment, je m'en veux quand je me blesse, mais j'ai une quantité d'entraînement qui est celle d'un ancien athlète.
Et votre mental, il va comment quand vous vous blessez au-delà de la blessure, c'est-à-dire en inaction?
Quand je suis athlète, je me sens Superman. J'ai besoin de me sentir Superman. Et quand je me blesse, je me sens une super merde.
C'est terrible. Hein.
Et c'est terrible. Ouais, non, c'est pendant une semaine.
J'ai une dépression.
Je suis en dépression. Je vais partir seul, marcher en montagne. Je vais écouter de la musique triste. Et je vais partir dans une espèce de trip comme ça de dégoût. de dégoût parce que je suis dégoûté de m'être blessé.
Okay, comme pour
mais ça dure une semaine.
Comme pour, toucher, après... comme pour toucher le fond et mieux rebondir ensuite. Voilà.
Non, mais
c'est
hormonalement.
C'est ma méthode.
En termes d'hormones, j'imagine qu'il y a un manque. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Vous qui avez travaillé physiologiquement sur le
corps.
Une
semaine, ça va encore.
Ah ouais.
Après, une semaine, ça va encore. Mais. Tu peux trouver plein de trucs à faire quand tu es blessé. Par exemple, je me suis blessé fin décembre au genou. Mais très vite, j'ai repris la marche. Et au bout de 4 semaines, je refaisais du vélo parce que c'était en ligne et c'était pas un problème. Donc, tu peux trouver des parades pour reprendre le sport très vite.
Mais donc, trouver un autre sport qui va détourner, entre guillemets, le...
C'est parce que je suis polyvalent que j'arrive à trouver des solutions.
Est-ce qu'avec l'âge, pardon...
Faut pas dire ce mot, mais...
Non, mais c'est vrai, j'y peux rien. De toute façon, tant que vous serez plus jeune que moi, je pourrais vous le dire. Est-ce qu'avec l'âge, justement, il y a des limites qui apparaissent de plus en plus ?
Il y a des limites, mais la limite, la première, ça a été le foot. Moi, aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de refaire des matchs. D'abord parce que je m'entraîne pas spécifiquement au foot. Ensuite, parce que je veux que ressembler à quelque chose sur un terrain de foot. Et en fait, j'ai vu des grands champions, des grands footballeurs continuer à jouer alors qu'ils n'étaient pas du tout au top physiquement, et en fait j'ai pas envie de les voir comme ça. Et donc ensuite quand t'es athlète de haut niveau, tu veux l'excellence, et donc pour moi l'excellence c'était avant, c'était avant. Du coup j'ai pas tellement déjà envie de jouer au foot pour ça, pour cette raison, et parce que on est moins bon qu'avant, tout simplement. Et après il y a des sports par exemple,
mais les périodes de récupération ne sont pas les mêmes avec l'âge quand on pratique.
Oui, tout à fait, mais t'as des sports, le jiu-jitsu brésilien c'est un art martial, c'est un sport de combat, c'est très violent. Là, je commence à être un peu moins dans le combat, je suis un peu plus dans l'entraînement, la pratique un peu plus douce. Après, t'as des sports comme le vélo, c'est un sport qui est très doux, c'est-à-dire c'est un sport que tu peux faire jusqu'à
vous ne faites pas l'articulation. Vous ne faites jamais rien sans vouloir être le meilleur dans cette catégorie-là, ou en tout cas franchir. Si c'est du surf, il faut que ce soit la plus grosse vague du monde qui se trouve à Tahiti. Bah si.
Ouais. Non.
Enfin, c'est la vague olympique en tout cas.
Ou la compétition de jiu-jitsu.
Tiopo. Non, c'est.
Eh ben, jiu-jitsu, vous retrouvez, il faut être ceinture noire.
Oui, c'est ça. Vous voulez faire les championnats d'Europe.
Oui, c'est vrai. J'ai fait ça.
Bah voilà.
C'est vrai. Alors non, il y a pas. L'idée, c'est de.
Et vous allez courir le Tour de France cette année. Il faut.
Non. L'idée, c'est de progresser. C'est d'avoir l'impression de progresser. Quand tu fais quelque chose, tant que tu progresses, t'es heureux parce que c'est satisfaisant de progresser. Quand tu régresses, c'est pas satisfaisant.
On est d'accord, Michel Temé, il y a se dépasser soi-même qui est une course qui finit jamais, et courir ou se comparer avec les autres. Et là, par contre, on peut se prendre de quelques déceptions.
Oui, c'est pour ça que mon approche, en fait, elle est maintenant différente de la compétition.
Maintenant, c'est le dépassement de soi.
C'est le dépassement de soi, c'est les défis que tu te lances à toi-même. C'est pas une course contre quelqu'un, c'est pas une course avec le chrono. C'est aussi le partage, c'est aussi l'aventure, le voyage.
Je voulais parler
de ça.
C'est
notre pratique sportive.
Parce que c'est pas non plus une vie recluse dans les montagnes et en buvant que de l'eau. Vous dites, le kiff, c'est de faire du vélo avec des potes, de se mettre dans le rouge et d'arriver en haut du col pour ensuite bien manger, bien gras et se régaler avec un bon vin et se lâcher.
Après, on peut le faire sans faire d'efforts. Hein.
Oui, en voiture. Ouais.
On n'est pas obligé de compenser par le sport. C'est toujours une mauvaise idée.
C'est compatible. À partir du moment où t'es pas dans la compète.
Ce que je trouve malin, voilà, c'est ça. C'est que il y a pas non plus le conseil nutrition qui va avec.
Non,
avec,
j'étais très honnête.
Deux salades vertes et
j'étais
et un
très
kiwi,
honnête sur le sommeil, par exemple. Tu l'as dit, j'ai un sommeil intermittent. J'ai pas trouvé exactement la bonne méthode sur l'alimentation. J'avais une alimentation évidemment de sportif de haut niveau, mais là, je me fais plaisir. Si j'ai envie de faire, 6 heures de vélo, ben on va se faire 6 heures de vélo. Et si on a repéré un bon restaurant et qu'on a envie de se faire une côte de bœuf avec des frites, on va se la faire. On va souffrir après, parce que quand tu repars sur le vélo, c'est pas toujours facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je mange pas de la salade tous les jours.
C'est ça.
Si j'ai envie de me faire plaisir avec des trucs qui sont pas très diététiques, je vais le faire quand même.
Vous dites d'ailleurs que vous envisagez à terme de consulter un nutritionniste.
Oui.
Pour commencer à aligner des choses là-dessus aussi.
Mais à chaque fois, t'es obligé.
Parce qu'il
fait un petit réglage, quoi.
Ah ouais. Oui, en vieillissant, tu vas faire plus d'exercices de mobilité, de souplesse.
Il a dit en vieillissant.
Oh, pardon. Bip.
Enfin, vous dites endurance.
Avec le temps qui passe, on va.
Endurance, force et souplesse, c'est un peu les trois axes.
C'est la parfaite combinaison de la bonne préparation. Endurance.
Mobilité.
pour développer tes capacités cardiovasculaires, pour ouais. le souffle, tout simplement. Mmh. Et avec ça, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je ne suis jamais essoufflé grâce au vélo.
Ouais.
Ensuite, la mobilité.
Et vous dites quand même que le vélo fait du bien aux articulations aussi.
Oui, oui, c'est une forme de lubrification.
C'est ça.
C'est très, très bon aussi pour la santé mentale parce que ça te nettoie la tête.
Ça fait mouliner et les pieds et la tête.
Quand je suis énervé, direct, je prends mon vélo et au bout de 3 heures, ça y est, c'est terminé.
Calmé.
Je suis calmé. Et voilà.
Alors que
et
moi, 10 minutes de vélo, ça me calme. Tu vois, c'est comme quoi, on n'a
pas,
pas
les mêmes trucs.
Et le renforcement musculaire après 50 ans.
Pour la force.
C'est absolument nécessaire.
Pour le dos, pour le,
ouais,
le gainage.
Parce qu'il y a une perte. Parce qu'on
fond
musculairement et donc il faut entretenir en faisant du renforcement musculaire.
Vivre de sport pour rester en forme chez Flammarion. Et comme l'a dit Mélodie, il paraît qu'il y a des photos. Moi, j'ai pas voulu. Moi, dès qu'il y avait une photo pour voir un mec bien gaulé, je tournais la page. Moi, je me suis intéressé que au texte. Mais c'est vrai qu'il est gaulé. voilà Paul Mirabel. Moi, changer de physique.
Bonjour les amis,
ouais,
est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui, ouais, toi?
Ouais, moi aussi ça va. Je suis très heureux de faire ma chronique devant Bichente Lizarazu, parce que c'est quand même 97 sélections à nous deux en équipe de France. 97-0. Non, je suis très heureux que vous soyez l'invité, parce que je peux enfin parler d'un sujet que je maîtrise un tantinet dans cette émission, à savoir le foot.
Ouais.
Une fois, on a reçu Guy Savoie pour parler des différentes recettes de soupe de potiron à faire en hiver. Je peux vous confirmer que j'ai très rapidement été dépassé par les événements. Je crois qu'il a même très vite compris que la cuisine, c'était pas mon domaine de prédilection quand je lui ai demandé si on pouvait faire des appels en profondeur avec des aubergines, il a paniqué. Non, moi j'aime vraiment beaucoup trop le foot. C'est même devenu un problème au quotidien, je vous avoue, parce que je sens que c'est en train d'abîmer mes relations sociales. Parfois j'ai des amis qui me proposent d'aller au restaurant, je leur réponds je peux pas, ce soir il y a Metz Clermont. Et le pire c'est que je suis ni pour Metz, ni pour Clermont. Déjà normalement, aucun individu sur cette planète qui a reçu une éducation stable et de l'amour ne regarde Metz Clermont s'il n'est pas obligé. Metz Clermont normalement c'est même pas un trajet que tu fais en 8 bus. Et moi le problème c'est que j'aime trop le foot. J'aime tellement le foot, je pense que si un jour j'ai un fils, je vais l'appeler 4-4-2. Comme ça, je pourrais le mettre à plat, je pourrais le mettre en losange. On va passer des super après-midi tous les deux avec 4-4-2 en attendant évidemment que sa petite sœur 4-3-3 revienne de l'école. Vous pouvez d'ailleurs constater par vous-même, j'aime beaucoup le foot puisque j'ai mis mon maillot de l'équipe de France aujourd'hui. Déjà, quand tu mets un maillot de foot alors que tu vas pas au foot, c'est que tu as un léger problème avec le sujet. Ils ont fait un gros coq en plus sur celui de cette année. Par contre, tellement gros, on n'est pas à l'abri qu'il se lève pendant l'émission, qu'il aille se promener dans les couloirs. J'ai même floqué le numéro de Mbappé dessus pour une autre raison qui est que j'aime trop Kylian Mbappé. Moi. Tous les gens qui aiment le foot savent de quoi je parle. La dernière fois, j'étais au restaurant avec une meuf. Elle m'a dit, tu penses à quoi là tout de suite? Je lui ai dit, je pense à Mbappé. Comment tu veux que je pense à autre chose dans un monde dans lequel Mbappé existe? Puis elle m'a dit, c'est quoi le plus important pour toi dans un couple? Je lui ai dit, le plus important pour nous ce soir, c'était de prendre les 3 points. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, dans le football, tout va très vite. Donc, on va continuer à travailler, se concentrer sur le match qui arrive la semaine prochaine. Je fais même tout ce que Mbappé me dit de faire maintenant. Une fois, dans une interview, il a dit, moi, tu me parles pas d'âge. Et maintenant, je parle plus d'âge. Voilà, quand on me demande quel âge j'ai, je réponds désormais, j'écoute Mbappé, je parle plus d'âge. Figurez-vous que j'ai même la chance de faire régulièrement des matchs de foot caritatifs avec son papa, Wilfried Mbappé. Je vous le dis très honnêtement, à la fin de chaque match, j'espère qu'il va m'adopter. Après chaque coup de sifflet final, j'espère du fond du cœur qu'il vienne me voir, qu'il me dise « Allez Paul, on rentre à la maison, tes deux frères Ethan et Kylian t'attendent » et que je lui réponde « Merci papa ». Non, je fais beaucoup de matchs de foot caritatifs en ce moment, moi. Je fais même plus de matchs de foot caritatifs que de films dans ma carrière jusqu'à présent. J'ai un agent de cinéma, mais je crois que là, il est plus proche de me faire faire des essais à la Juventus que des essais avec Quentin Dupieux. C'est très souvent des matchs de foot caritatifs en faveur des enfants malades auxquels je participe d'ailleurs, sauf que parfois, après, je re-regarde les matchs en replay, on dirait que c'est moi l'enfant malade en question. En fait, le problème, je me suis rendu compte, c'est que tu sens trop la différence entre les anciens footballeurs professionnels et les pas anciens footballeurs professionnels. Une fois, j'ai joué contre Eden Hazard, tout le monde voit qui c'est.
Ouais.
À un moment sur le terrain, il m'a fait un dribble.
Diable rouge.
Je crois qu'il m'a fait perdre ma virginité une deuxième fois. Et j'espère que vous rigolez parce que vous avez l'image et pas parce que vous êtes surpris que je l'ai déjà perdu une première fois. J'ai même eu la chance de jouer avec plusieurs champions du monde de France 98. Je vous promets que c'est vrai. Une fois, j'ai fait un match de foot caritatif avec Didier Deschamps. Avant le match, je me faisais masser les mollets. Il m'a dit pourquoi tu te fais masser les mollets alors que t'as pas de mollets. Puis je lui ai dit vous pensez que j'ai de la chance d'être dans la liste. J'ai la chance d'être dans la liste des 23 pour l'Euro. Il m'a dit même si c'était la liste des 2500, tu serais pas dedans. J'ai même eu la chance de jouer avec un autre champion du monde aussi récemment, véridique, monsieur Laurent Blanc. À un moment, je lui ai dit, vous trouvez pas que dans mon toucher de balle, j'ai un petit côté Johan Gourcuff? Il m'a dit, alors je te rassure, t'as même pas un petit côté Johan. Puis il m'a dit, par contre, tu sais à quel joueur tu me fais penser avec ton style de jeu? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, moi non plus. Non, moi, je vous avoue que j'aurais rêvé d'être footballeur professionnel. J'ai eu 28 ans récemment, là, au fond de moi, il y a toujours une petite voix qui dit « Moi, tu me parles pas d'âge ». Du coup, je profite pour passer l'information, parce que j'ai vu que France Inter était la radio la plus écoutée de France. S'il y a un petit club qui veut me recruter, n'hésitez pas.
Mais non.
Ouais, je suis pas difficile en plus, je cherche pas forcément un gros club comme le Real Madrid ou Manchester City. Je vais pas faire le difficile non plus. Par exemple, si c'est juste Liverpool, voilà, moi, ça me va très bien. Après, avec du recul, j'ai compris pourquoi je suis pas devenu footballeur professionnel. J'ai fait une rétrospective. C'est parce que moi, j'avais envie, mais mes pieds, ils avaient pas forcément le même désir. Ça me fait mal de vous l'avouer, hein. Mais je crois qu'en foot, je suis plus proche du niveau de Paul Bocuse que de Paul Pogba. En fait, quand le ballon arrive, je fais pas des contrôles orientés, moi je fais des contrôles désorientés.
Oula, pardon. Ah.
Ça me fait plaisir.
C'est vrai.
Non, en fait, le problème, c'est que je suis extrêmement lent. Moi, quand je joue au foot, on dirait Francky Vincent sous l'Exomil. En fait, j'ai une bonne vision du jeu, mais que quand je suis derrière ma télé et que c'est Bixente qui commente. Sinon, après, j'ai plus de vision du jeu. Moi, je sais même pas vraiment quel style de joueur je suis en plus sur le terrain. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, t'es un peu un mix entre Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Sauf que le mix entre les deux, ça donne Antoine Rabiot. Et Antoine Rabiot, on dirait le nom d'un gars qui vend du chlore chez Castorama et pas de quelqu'un qui va signer au Bayern Munich. Voilà. Donc, je viens de vous claquer ma dernière blague dans le temps additionnel de cette émission. T'as l'air un véritable renard des surfaces. Maintenant, il faut que je vous laisse parce que je dois aller chercher 4-4-2 et 4-3-3 à l'école.
Merci. Daniel.
Et Paul Mirabel, tu es sur
en levée de rideau,
voilà, en tournée, en match de Bayern, au Bayern de Munich.
Oui,
voilà.
Et je joue au Dôme de Paris en novembre 2025.
Oh, yes, ouais. Bayern-Real, c'est une affiche de la Ligue des Champions.
C'est l'affiche, ouais.
Vous êtes
l'affiche
toujours ambassadeur du Bayern.
Affiche de Ligue des Champions, parce qu'il y a toujours un Bayern-Real en Ligue des Champions.
Et l'autre, ça sera Dortmund-PSG. Vous êtes toujours ambassadeur du Bayern?
Non. Enfin, je suis toujours très proche du Bayern, mais je fais plus de déplacements un peu partout dans le monde pour le pour
toujours
le Bayern.
Payé quand même.
Comment?
Toujours payé quand même.
Non.
Pas le Bayern. Vous voyez quel pronostic pour un Bayern Real?
Le Bayern va pas très très bien, ça marche pas très bien avec Tuchel, mais comme c'est la dernière compétition qui leur reste, voilà,
ils peuvent, oui, ils ont,
ils peuvent surprendre. A priori, voilà, le Real. Avec ce qu'ils ont réalisé face à City, mais attention.
PSG Dortmund.
PSG, je pense que.
Donc on va.
PSG a toutes les qualités pour s'imposer face à Dortmund.
Donc on irait vers un PSG Real avec.
Non, PSG Real ou PSG Bayern, parce que pour moi, Bayern peut créer la surprise quand même.
Pas un Dortmund-Bayern comme ça a été déjà le cas en
2013.
Ouais, c'est ça.
2013, ouais.
Vous êtes très proche de Zinedine Zidane, de Zizou, on parle beaucoup de lui au Bayern. Vous pensez que ce serait une bonne chose? Il aurait l'esprit, la mentalité, ça irait? Parce que c'est une culture particulière.
Je pense qu'il a déjà dit en fait qu'il voulait absolument aller dans un club où il parle la langue. Et du coup.
Okay. Ça s'apprend, non?
Ouais, mais.
Il parlait pas l'espagnol avant d'aller au Real.
Enfin, voilà, et donc du coup, il était plutôt focus sur l'Italie ou sur l'Espagne, ou sur la France, mais pas spécialement sur l'Angleterre ou sur l'Allemagne. Voilà, donc je sais pas ce qu'il en est.
Comment vous vous positionnez quand vous êtes proche intime de Zinedine Zidane, proche intime de Didier Deschamps, et que la presse les monte en épingle l'un contre l'autre pour l'équipe de France? C'est une situation gênante?
Non, c'est pas gênant parce que j'essaie d'être juste. Et d'ailleurs, voilà, à un moment donné, j'avais pris une position à l'époque où Noël Graët n'avait pas été très diplomate avec Zizou, parce que je considérais que c'était pas juste vis-à-vis de Zizou de le mépriser à ce point.
Carrément,
c'est pas quelque chose contre Didier, voilà.
Il y a le respect avant tout. Quoi.
Ouais. Et voilà, moi je considère les deux sont de très grands entraîneurs. Les deux ont fait un super boulot. Les deux, Didier, ce qu'il a fait avec l'équipe de France aujourd'hui, c'est extraordinaire. Zizou pourrait être un jour un super sélectionneur aussi. Donc là, j'avais pris une position pour créer un espèce d'équilibre, me semble-t-il.
Ouais, mais est-ce que dès que vous dites du bien de l'un, est-ce que l'autre vous appelle en disant « tu te fous de moi ?»
Non.
Non, ça arrive pas à ce point-là, d'accord.
Non.
Est-ce que c'est facile quand on est commentateur et brillant commentateur? Moi, j'adore les commentaires et l'équipe que vous faites avec Margoton, elle est absolument formidable. Est-ce que c'est facile de critiquer et d'interroger quelqu'un que l'on connaît par cœur, avec qui on a vécu une histoire dingue, une histoire folle, que ce soit encore une fois soit Zizou, soit Dédé, et se retrouver à leur poser des questions en disant mais pourquoi avoir fait ce choix tactique? Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas faire ci?
Bah, Zizou, ça m'est pas arrivé encore, en réalité.
C'est vrai.
Ouais. Mais Didier, bien entendu, des fois même, on a eu des... Enfin, ce qui est chouette, c'est qu'on a des conversations avec Didier. Parfois, on n'est pas d'accord.
Bien sûr.
Mais c'est pas un problème. C'est voilà un avis sur le foot, une vision sur le foot. Moi, je suis pas un fou furieux non plus. Donc, je sais parler, je sais argumenter. Didier aussi. Donc, c'est pas très difficile, non. À un moment donné, être critique sur un match qui est pas bon, c'est juste avoir des yeux et parler de ce que tu as vu. Après, c'est d'être dans des propos qui sont un peu extrême en quelque oui. sorte. Donc c'est là-dessus où tu te dois d'avoir quand même du respect, c'est la base.
Vous avez été sur le toit du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en étant champion du monde. Il y a eu tout un enchaînement entre ces années champion du monde avec l'équipe de France, et puis après il y a eu la Ligue des Champions avec le Bayern, champion d'Europe avec l'équipe de France à nouveau. Ce que vous avez vécu en charge d'adrénaline dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, vous avez pu le revivre après dans d'autres situations ?
Oui.
Ou c'était vraiment incomparable ? Oui, et dans quelle situation alors ?
C'est pas complètement comparable, parce que c'est extrêmement puissant de gagner la Coupe du Monde, de gagner la Ligue des Champions. Tu sens que t'as réalisé quelque chose qui va rester dans l'histoire. Tu le sens quand t'es champion du monde ou quand tu gagnes la Ligue des Champions pour un club. C'est quelque chose de rare. Et puis c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose que tu vis avec un public ouais. aussi. Moi, c'est des aventures, les aventures que je vis
plus
aujourd'hui
solitaire.
Sportif, c'est un peu plus solitaire, c'est, y a pas de caméra, mais ce sont des défis personnels qui m'apportent du plaisir, je sais pas, c'est plus doux, c'est pas aussi violent, c'est pas aussi intense, mais c'est doux, c'est très agréable, je suis content de l'avoir fait, je suis content.
La vague à Tahiti, ça a été.
Je suis content d'avoir surfé cette vague, une vague ouais. très dangereuse. Raymond Avendastoler est un surfeur, une légende là-bas, il m'a permis de la surfer, je pense que je pensais pas être capable de le faire, je l'ai fait, c'était une satisfaction. Personne l'a vu, il n'y avait pas de public, personne n'a applaudi, mais j'étais content de l'avoir fait. Voilà, comme en ski, descendre des pentes un peu raides.
C'est quoi les prochains défis alors ?
Prochain défi, là j'aimerais me faire tous les cols à vélo, tous les cols des Alpes, tous les cols mythiques des Alpes. Je voudrais me faire le Ventoux par exemple, par les trois voies. Donc c'est à peu près 5000 mètres de dénivelé. Ouais. Des défis sportifs comme ça, c'est pour moi, c'est vraiment, ça me suffit en termes de satisfaction.
Mais vous voulez pas que je vous fasse ma moto ?
Non, c'est plus agréable à vélo. C'est plus agréable.
Ça fait moins de bruit.
Ça pollue moins.
Ça fait moins de bruit, oui, c'est ça. On va parler musique avant de recevoir Nathalie Yanetta dans quelques instants, qui est directrice des sports de Radio France et qui est présente chaque dimanche sur Inter dans l'Esprit Sport de 18h10 à 19h. La musique dans vos oreilles en 86, c'était... Et en 86, Leila, que se passait-il pour Bichette et Lisa ?
Eh bien, en 93, vous êtes animateur.
En 86.
Radio. Ah, 86, j'ai loupé, pardon, j'étais. C'est le bac. C'est le bac. Vous venez d'avoir votre bac. Bac D, c'est ça, au lycée oui. Fernand Daguin de Mérignac.
Tout à fait.
Avec en tête quoi par rapport aux études ? Quelle idée ?
Ça servait à quoi ?
À les études,
ouais.
Si ça marche pas le foot.
Pour faire quoi ?
Dans l'idée, c'était faire un truc dans le sport. Quelque chose dans le sport. Mais j'avais en tête que c'était possible de pas être footballeur professionnel.
Et faire de la radio, oui, c'est en 93. Voilà. Musique qui continue visiblement d'accompagner Vicente Lizarazu en faisant du sport, mais là c'était
carte blanche sur 8FM de 18h à ouais. 19h.
J'étais footballeur professionnel.
Et vous accueillez. Ah oui, déjà, oui,
mais
c'est vrai.
Mais oui. J'étais footballeur professionnel et j'avais cette émission radio, donc visiblement j'aimais bien déjà les médias et voilà.
Mais ils n'étaient pas partenaires ou sponsors du club ?
Oui.
Je me souviens de
panneaux
en tout cas autour
du stade. Oui, c'était la radio du club.
C'est
ouais.
ça, ouais.
Et il y avait qui comme invité alors ?
Alors, c'était
c'est vous
très éclectique.
Ouais,
ah oui, non, je pouvais parler de la pêche à la pibale, comme je pouvais inviter un rugbyman, un footballeur, ou parler de gastronomie. La pibale, c'est là le vin de l'anguille.
Oui, oui, bien. Avec de la musique, forcément. Donc, il y avait des Vincent Moscato, des
oui.
Alain Giresse, Zizou, Dugarry sont passés par là.
Oui.
Les copains, notamment. Avec quoi, l'idée aussi de se dire quoi, un jour, vraiment, vous prépariez déjà la reconversion ?
Non, à cette époque-là, je n'imaginais pas que j'allais avoir cette reconversion, mais ça m'amusait de faire un truc. Enfin, j'ai toujours été curieux, en fait. J'ai toujours voulu faire des trucs différents. Et là, on m'a proposé ça. Je fais, ah ouais, c'est cool. Je vais inviter qui je veux. On va parler de choses différentes, parler d'autres choses que de foot. Et ça m'amusait de le faire.
Vous jouez de la musique ?
Plus maintenant. Je jouais un peu de guitare, ouais. En fait, mon rêve, ça aurait été d'être Angus Young, tu vois. C'était, voilà, ouais, c'était vraiment un guitar héros comme
de,
ça.
Et de... ou pourquoi pas Brian May, on est en 2006. Brian May étant le guitariste.
Passion Queen.
Ouais. 2006.
Le meilleur.
Ça, c'est l'après-foot.
C'est la retraite. Le 30 avril 2006. C'est la date, vous l'avez en tête aussi, le 30 avril?
Oui, ou oui. Si, si, enfin, la date, je ne l'ai pas forcément. Le match, oui.
Le 13 mai.
Bayern-Dortmund.
Et ça arrive pas très très loin de Zizou?
Ouais, il a attendu, il a attendu un peu, il a attendu la Coupe du Monde, ouais. Voilà, mais la fin, ouais, j'étais triste pour moi d'arrêter, j'étais triste aussi pour Zizou quand il a arrêté.
Votre dernier match, c'était le 13 mai. Sur le terrain, votre numéro habituel, c'était quoi, le 3, c'est ça?
Le 3, hein, ouais.
Ouais. A été attribué, donc vous jouez avec un autre numéro.
Ouais, avec le 69. Ouais, mon numéro fétiche, c'est le 3, ça a toujours été le 3 à Bordeaux, Bayern et...
Et pourquoi le 69?
Parce qu'il fait 1m69, c'est pas la position.
Parce que je fais
1m69.
Mais quoi?
Arrête,
non, mais légitimement, tout le monde ne sait pas qu'il fait 1m69. Pardon, on peut expliquer un peu.
69 kilos, et voilà, c'était un peu le...
1m69, 69 kilos?
Oui, à l'époque, quand j'étais footballeur. Mais en vérité, non, j'étais plutôt à 72, 73. Ça m'amusait, en fait. Okay, ça m'a amusé parce qu'il fallait que je trouve un numéro.
J'ai même pas
je savais quoi, je savais pas quoi faire. Et ça m'a amusé.
Et vous avez fait quoi le lendemain, les heures qui ont suivi ce dernier match?
D'abord, ce dernier match, en fait, ça a été horrible. Mm. J'étais sur le terrain sans y être. J'étais sur le terrain en pensant à ma carrière qui défilait, qui allait s'arrêter là. J'étais très triste. Mm. J'avais peur de me blesser. Et je voulais absolument pas me blesser pour sortir dignement. C'était horrible. Et puis quand j'ai arrêté, il y a eu 2 jours difficiles, très très difficiles. Et puis après, c'était la liberté.
Mmh. Et pourtant, pardon, hein, de reparler de blessure, c'était quand vous jouiez en Espagne que vous étiez blessé, qu'Aimé Jacquet est venu vous voir. Et malgré la blessure, malgré le mental, enfin connaissant votre mental, il vous a présélectionné ou dit si tu es prêt, je te prendrai dans l'équipe de France.
Alors, j'étais déjà au Bayern.
En 98.
C'était pas à Bilbao, j'étais déjà au Bayern, mais j'ai eu cette blessure.
Vous craignez la plus
belle. J'ai eu cette blessure à Bilbao. Pour la première fois de ma vie, je connaissais une blessure. Donc, je me sentais Superman avant. Mmh. Et là, je me sentais une super merde. Vraiment, j'avais perdu ma force.
Mais c'est fou qu'un coach vienne voir un joueur blessé en disant si t'es prêt, je te prends.
Ouais, je pense qu'il croyait en moi.
Bah ouais.
Et il voulait aussi me donner de la force. Ça m'a donné beaucoup de force de voir son soutien, de voir sa confiance. Et du coup, j'étais déjà très très motivé, hein, à l'entraînement, pour faire les soins et tout ça. Et là encore plus avec sa visite.
Et vous devenez à cette époque consultant pour Canal, pour l'équipe. Est-ce qu'un jour vous avez douté de votre capacité à... Vous dites que vous êtes d'un naturel timide à ce moment-là, qu'il fallait sortir un peu de vous. On critique toujours les joueurs de football sur leur capacité intellectuelle et leur capacité à être... Pourquoi vous regardez en souriant comme ça?
Parce que j'ai vu sur une émission qu'il était timide quand il était adolescent. Et donc je lui ai envoyé un message en lui disant tiens, c'est très étonnant parce que moi aussi j'étais très timide. J'ai du mal à croire qu'il était timide, mais bon, je veux bien le
comme
croire.
Toi, hein.
Et moi, je l'étais énormément.
Mais comme beaucoup de gens d'antenne,
bah oui,
énormément.
En réalité. Évidemment.
Et en fait, je crois que si j'ai fait cette émission radio, c'est que justement, je voulais me libérer un peu de cette timidité. Je pensais que ça allait m'aider. Et peut-être que si j'ai fait ça aussi, c'est pour m'aider encore à sortir. Parce que bon, même si j'ai 54 ans, le fond de timidité, il est toujours là, quoi.
Et puis, il faut être bon.
Le gamin, je sais pas, quand il allait en boîte, une fille le regardait,
Et puis, il faut être bon. Comme vous cherchez cette performance-là, même dans le sport, j'imagine que dans le commentaire aussi, vous avez bossé pour être bon. Comment on bosse pour être bon au commentaire?
Ah, comment on bosse? C'est par les matchs, l'entraînement. Après, tu...
Ça se prépare avant, quand même.
Ça se prépare avant.
On fait des fiches, on fait...
On fait des fiches, mais si on... Enfin, en tout cas,
on
ça dépend.
On a des lacunes.
Si t'as trop d'informations avant, en fait, tu regardes pas le match. Ouais. Donc, si tu veux vraiment être focus sur le match, il faut être spontané sur ce qui se passe sur le terrain. Si tu commences à raconter la vie de l'arrière-gauche ou l'arrière-droite, tu sors complètement du match. Donc, moi, j'essaye d'éviter d'avoir trop d'informations et d'être focus sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est de l'entraînement, c'est de l'habitude. but, c'est aussi une connexion avec ton partenaire de commentaires, Grégoire Margoton, avec qui je m'entends super bien. Voilà, et oui, tu regardes les matchs, tu regardes les
équipes. Il faut trouver son style, quoi. Faut aussi trouver son style.
Oui, il faut trouver son style. Oui, bien sûr. Oui,
ça faut trouver son style. Et puis, il y a une vista, quand même. C'est-à-dire, vous êtes capable.
La veste en cuir.
Non, parce que j'ai pas, c'est que la vision du jeu, et c'est ça qui est magique, la vision du jeu est de voir un match et de simplement voir dans la tactique, dans la manière dont ça se passe, dont vous voyez même ceux qui n'ont pas le ballon se positionner, marcher ou courir, si ça va aller, si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est dans votre ADN. Et je parle de vous, les sportifs en général. Tous ne sont pas capables de le faire et de le dire dans un micro. Mais quand vous avez ça dans le sang, c'est plus fort que vous. Et même, j'imagine que quand vous êtes à la maison, que vous regardez un match de foot sans le commenter, dans votre tête, vous le commentez. C'est-à-dire, vous êtes capable déjà de voir si ça peut ou pas le faire, non ?
Si, ouais, mais quand tu fais du foot depuis l'âge de 3 ans, tous les jours, tous les jours,
à un moment donné,
tu connais
le rugby, ouais,
le jeu, tu connais le jeu. Après, la difficulté, c'est d'exprimer ce que tu as en tête. Ça, c'est pas facile pour tout le monde.
Ils sont passés pour un donneur de son.
Oui, tu peux être un footballeur professionnel, mais en même temps avoir du mal à exprimer ce que tu vois. Après, oui, dans le style, c'est pas passer non plus pour un donneur de leçons qui sait tout sur tout, parce que quand t'es sur le terrain, on a gagné, on a perdu, on n'a pas trouvé des solutions sur
et
tout.
Et surtout, il y a quelques consultants foot qui sont mais tellement mauvais. Je les ai adorés sur le terrain, mais quand j'écoute le gars parler au micro, tu dis mais c'est pas possible, quoi. Il y a bien quelqu'un qui va lui dire il faut arrêter. Mais
bon, Aquaimbo,
c'est pas grave.
Comme on dit en Corse.
Et voilà.
Mais c'est pas le nom de quelqu'un là qui vient de dire. C'est ça. Silence. Nathalie Yaneta nous a rejoint. Pardon Nathalie, déjà je me suis trompé sur l'heure, c'est à 13h20. Parce que c'était
totalement 13h20.
C'était, non, mais
cette année.
L'année dernière c'était à 18h, pardon. Donc 13h20, 14h, l'Esprit Sport. Nathalie Yaneta, directrice des sports de Radio France. Comment faire, ça c'est aussi votre combat, pour que la France devienne une nation sportive? Il faudrait prendre le problème à la source, à l'école?
Oui, alors il y a plusieurs sujets dans ce sujet-là. D'abord il y a le sport, la haute performance, l'activité physique. C'est trois sujets qui sont complètement différents. Bichent a ce militantisme aussi sur le sport. L'activité physique, c'est ce qu'on doit faire pour être à peu près en bonne santé. Le sport, c'est le cran du dessus. Et puis, il y a les très grands champions. Nous, on est un pays de champions, incontestables et championnes. On est un pays de coups, de gros événements sportifs, de grosses consommations aussi en termes de supporters lorsqu'il y a un événement sportif.
Et de réussite dans le sport d'équipe aussi, c'est-à-dire foot, rugby, hand, volley, enfin,
sport co, tout va bien. Ouais. En termes, les gros champions, on les a, la haute performance, on l'assure. C'est la culture sport qui nous manque. Bichent a vécu dans un pays qui a la culture sport, c'est l'Allemagne. Mais c'est le cas dans plein d'autres pays. Nous, la culture sport,
c'est quoi ? Ils ont quoi en plus à ce moment-là quand vous dites culture sport ?
Ils ont en plus que dès l'enfance, ce que les valeurs du sport incarnent et accompagnent dans l'existence de chaque individu est fondamental au même titre que d'autres segments de notre construction mentale. On respecte le sport, on le valorise, pas seulement parce que t'es en bonne santé, pas seulement parce que ça va te permettre de t'émanciper, mais pour toutes ces raisons-là.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? On va à l'école le matin et l'après-midi on fait du sport?
Mais c'est pas seulement ça, c'est la considération.
Il y a ça. Il y a ça.
Bien sûr, ça passe par ça. Nous, en France, on a ces 30 minutes d'activité sportive. L'activité physique, du coup, à l'école.
C'est ridicule.
Alors, imaginez, ça veut dire qu'il n'y avait pas ça avant. Du tout. Ouais. Donc, c'est presque vertigineux comme décision. Il faut inculquer à nos gosses, dès l'enfance, que les valeurs du sport, elles sont aussi importantes dans sa construction et dans son identité que d'être quelqu'un de cultivé, d'être quelqu'un de...
C'est ça.
Ça passe par un modèle. Et ça passe par déjà un modèle parental.
Des modèles, il y en a. Bichent en est un, par exemple. Il y en a d'autres, parce qu'en fait, c'est l'inspiration qui va
venir. C'est
vrai
que quand on voit un Teddy Riner se battre contre ses blessures, se battre contre lui-même aussi, et devenir l'un des champions les plus titrés et qui se donne aucune limite. Il parle de ses Jeux Olympiques et pourquoi pas les suivants.
Il a dit même de Los Angeles, pourquoi
pas. Voilà, c'est ça. On a quand même
C'est le pourquoi aussi. Je te disais le pourquoi je posais cette question à mes entraîneurs, mes coachs. Pourquoi on fait ça?
Oui, c'est le sens.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter de faire, par exemple, du vélo, de faire de la course à pied? Mais tu vas être moins essoufflé, tu vas te sentir plus à l'aise dans ton corps. Pourquoi tu vas faire des exercices de mobilité, de stretching, de yoga? Parce que ton corps il va être souple et du coup
ça va pas couiner. Ça s'appelle
donc l'éducation. C'est comprendre pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter
et on ne l'explique pas. Et pourquoi dans les écoles, dans l'éducation nationale, on ne va pas dans ce sens-là?
Parce qu'on est un pays d'intellectuels, que depuis toujours nous avons valorisé la connaissance dans la nourriture intellectuelle et nous ne l'avons pas accompagnée de l'autre jambe qui est la nourriture, de la maîtrise de son corps dans l'espace, etc., de ce que ça accompagne aussi comme émancipation. On voit bien que dans certains quartiers, dans certains territoires éloignés, pour des jeunes filles, beaucoup, pour des personnes en situation de handicap, à quel point le sport est émancipateur. Ça lui permet de sortir de sa condition. Et ça, c'est un élément du vivre ensemble. Ce fameux vivre ensemble après lequel nous semblons courir dans notre pays. Donc là, on a les jeux dans 3 mois.
Le sport, c'est l'ascenseur social pour les minorités et pour ceux qui ne sont pas privilégiés.
Mais c'est pas qu'un ascenseur social. Il ne faut pas le vivre comme étant aussi un aboutissement. Ça doit être un accompagnement. C'est quelque chose qui doit être dans nos vies, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. On voit bien qu'aujourd'hui, grâce à des valeurs et à des vertus de l'activité sportive et de l'activité physique, y a des médecins, par exemple, qui s'en sont emparés pour permettre de mieux vieillir. Excuse-moi, Bichente, mais oui, nous vieillissons, mon ami, aussi vite que possible ou aussi lentement que possible.
Psychologiquement, le fait de le dire, c'est pas bon.
Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça, c'est un de nos grands défis. Vous savez, avec Bichente, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Écoutez, tout à l'heure, j'ai l'impression de revoir ma vie défiler.
Il y a une formule que Didier Deschamps avait employée lors d'une conférence de presse. On lui demandait si Giroud n'était pas trop vieux. Et il avait dit, Giroud, il a 20 ans. Tout le reste, c'est de l'expérience.
Oui, c'est pas faux aussi.
Et je trouvais ça joli comme tournure d'esprit.
Mais en tout cas, nous vieillissons et nous avons besoin, effectivement, que nos corps soient le plus armés possible, justement, pour faire face à cette prise d'expérience. Moi, je marche beaucoup. Voilà, je suis une grande marcheuse parce que moi, ça me lave la tête aussi.
J'ai énormément besoin de
marcher.
Et ça marche pour elle à 13h20 jusqu'à 14h le dimanche. L'esprit sport.
Elle vieillit, hein.
Nathalie Yaneta. Comment ? Merci, Nathalie, d'être venue à ce micro. Mais c'est votre patronne, en fait, Nathalie.
Mais oui, c'est ma patronne.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'il ne branchait pas trop, tu vois.
Voilà.
Bravo.
Mais
il a re-signé pour l'année prochaine ou pas ?
Mais grave, juste 2 ans, tu crois que nous on va pas la faire la Coupe du Monde en 2026,
Être aux JO aussi.
Et il va faire les Jeux.
Je suis sur le foot, bien sûr, mais je vais être sur les JO aussi.
Parfait.
Avec France Info.
Ça sera notre capitaine des Jeux. Très bien. Super.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler?
Je vais rester dans le sport. J'avais critiqué ici la tenue des bénévoles de Paris 2024. Vous vous souvenez notamment le Bob? Et ben retour de bâton. Depuis, je reçois des Bob. Mais qui sera par courrier. Tout à l'heure.
Avec Mélodie Fontaine, Paul Mirabel, Tanguy Passureau, Alexis Rossignol et notre invité Michel Vénestin-Rassou. Puisqu'on parle de sport et de vivre de sport, Mélodie, comment tu vis, toi, le sport? Est-ce que tu en pratiques un?
Alors, moi, j'aime beaucoup regarder les autres en faire.
Tu fais rien du tout?
Si, je fais une heure de... Je me suis mis au yoga parce que je me tiens pas droite. Et ça m'a un peu changé la vie en termes de respiration, même sur scène. Et je commence à y prendre un peu goût.
D'accord.
Et je fais du pilates aussi.
Ok. Wow, ah oui, donc ça c'est... Oui, ça c'est... Je vois hocher la tête en disant, ah, ça c'est super.
Non, mais yoga, pilates. Yoga, pilates, je connais moins. Le yoga, je connais bien sur la respiration. Contrôle de la respiration, c'est fabuleux.
Et pilates, c'est les muscles profonds, en fait, c'est ça.
C'est d'aller sur machine, t'étires les muscles profonds.
Sur réformeur.
C'est un mélange de gainage et de mobilité. Quoi.
Et je savais même pas que j'avais autant de muscles.
Paul Mirabel, tu parles football. Il y a que le foot que tu pratiques ou
non, je fais de la boxe et de la salle de sport.
Non, mais on arrête de déconner. Qu'est-ce que tu fais comme
Ok,
d'accord.
C'est vrai.
C'est pas gentil.
Quand tu dis la salle de sport, tu fais la muscu un peu.
Ouais.
Ok. Non, il va dans la salle, il regarde les autres.
Moi aussi, je regarde.
Il va à la fontaine à eau.
Moi, je regarde Paul faire du sport.
Tanguy, tu pratiques.
Non, je cours moi un peu.
Ah, d'accord. Ouais. Alexis?
J'ai une forme de motivation éphémère, moi. Donc, je me motive, puis après, j'ai pas de persévérance.
Mais pourtant, j'ai l'impression que t'aimes le sport.
J'aime ça, c'est vrai, mais j'ai peu de persévérance. Faudrait peut-être que je le fasse en groupe.
D'accord.
Ah, seul, oui, j'arrive pas à me motiver.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est le problème aussi. Et la force de Bichente, c'est d'être capable seul d'y aller, alors qu'une grâce mat serait la bienvenue, mais quand même d'y aller, pas se l'interdire. Toi, Leïla, ça a été le sport co, ça a été le basket?
Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de basket à haut niveau, très longtemps. Donc, ça a été. Après, c'est difficile de faire un sport pour s'amuser quand on est dans la compétition. Donc, si, non, je fais du pilates réformeur avec Céline, que j'embrasse, Céline Roy, bien qui est super. Compte. Je fais un peu de yoga, et puis je fais aussi du renforcement musculaire, quoi. Mais pas assez. Pas assez.
Vous parlez du sport et de vivre de sport, il y a aussi le risque, ou la peur de mourir, entre guillemets, en se disant, finalement, si je fais ça, c'est pour être le plus en santé, le plus en forme possible, le plus longtemps possible. Et bizarrement, mais chaque fois que vous avez parlé d'accident, vous étiez pratiquement à deux à l'heure, où c'était des choses pas très risquées. Je pense à Michael Schumacher, qui a risqué sa vie pendant des années, à chaque virage, à 300 km/h, et qui a skié sur une piste verte,
pas verte, mais c'était, il y avait des cailloux en fait. C'était un hors-piste, mais pas ce qu'on appelle un vrai hors-piste.
Et il avait une caméra sur le casque, et apparemment c'est ce qui a posé le problème. Enfin, malheureusement, il se retrouve handicapé à vie. C'est-à-dire que la peur de la mort est aussi une motivation.
Une motivation, ça sera le prochain livre, La peur de la mort, je sais pas.
Non,
mais moi j'adore la vie que j'ai envie de kiffer le plus longtemps possible, mais j'ai envie de kiffer en forme.
Et, ouais, c'est ce que je vois.
Et d'accord. Donc le sport, ça m'aide à
maintenir ça.
À maintenir ça. Ouais. Après, il y a des risques quand tu fais du sport. Si je reste devant ma cheminée, il m'arriverait rien. De temps en temps, je me blesse. Mais très souvent, curieusement, je ne suis pas blessé dans des situations dangereuses.
C'est ce que je dis.
Parce que tu es hyper concentré. Voilà. Tu te blesses dans des situations où tu es un peu. Tu regardes.
Mais là, le surf, où vous êtes blessé terriblement. C'était dangereux, c'était pas dangereux?
Non, c'était pas des grosses vagues. Enfin, il y avait 2,50 m. Pour moi, c'était pas très, très gros. Et j'ai pris la lèvre sur le dos et j'ai une rupture du tendon de l'ischio-jambier. Je me suis réveillé sous l'eau. Je suis resté 2 secondes.
Ouais, vous dites, vous saviez même pas dans quel sens vous étiez. Si vous alliez vers le fond ou vers la surface.
Oui. Mais.
Mais ça, souvent, c'est le cas, hein. Quand on se retrouve comme ça dans le. Voilà. Oui. Dans les rouleaux, quoi.
Oui.
On sait plus où on est.
Des fois, c'est noir. Tu sais pas où est le haut. Tu sais pas où est le bas. Mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, en fait. C'était franchement anodin, mais ça fait partie du jeu. La blessure est toujours là.
Chez Flammarion, vivre de sport pour rester en forme, c'est aussi une manière pour Bichente et Lizarazu de se raconter aussi, de raconter tout son parcours, ses expériences, ses anecdotes, son vécu. On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau.
Hier, je vais à la boîte de production qui gère mes spectacles pour récupérer le cash à l'arrière du van parce que je travaille à l'ancienne. Et là, mon producteur, un Corse lié à la mafia tchétchène, me tend une enveloppe. Je lui dis, tu sais bien que je trempe plus là-dedans, mets-toi en contact avec Alexis le Rossignol. La chnouf, il l'a fait passer d'une ville à l'autre dans des tranches de jambon roulé, quoi. Il me dit, non, ça c'est un truc qu'on a reçu, je sais pas ce que c'est. Là, je hurle, ça va exploser! Et je me réfugie sous son Audi A9. Mais en lançant l'enveloppe, je vois bien que c'est léger. Je la fais renifler à mon Rottweiler, Dupont-Moretti. Je vais donner le nom de la personne la plus effrayante que je connaisse. Un bail, ce n'est donc ni de la drogue ni de l'anthrax. J'ouvre l'enveloppe et là, horreur. Je sors de l'enveloppe un bob, un sac banane et une paire de tongs. Les trois trucs qui me révulsent le plus. C'est comme si un néo-nazi avait sorti de ce truc-là une Magen David, quoi. Oh. Je cours à la salle de bain en or de la société de production me laver les yeux. Quand je les rouvre, j'observe les objets. Sur le bob, le sac banane et les tongs sont écrits un slogan All you need is l'once. Je réfléchis, l'once. Ça me dit quelque chose. L'once Armstrong? Non, c'est l'once. Oh. Racing Club de l'once? Non, c'est l'once. Lance-moi donc la balle? Non, c'est l'once. Bon, je réfléchis un peu plus, mon visage devient rouge, j'ai de la fumée qui sort des narines, un enfant qui passe me saute dessus, en criant « Maman, j'ai attrapé un nouveau Pokémon ». Et là, je me dis, ne serait-ce pas Lance Le Saunier ? Mais si Lance Le Saunier, la préfecture du Jura ! Et là, je réalise que dans l'enveloppe, il y a une carte de visite du directeur général des services de la mairie, Patrick Mich. Dans les grosses têtes, il y a 25 ans avec ce nom-là, il faisait 16 heures de vanne.
C'est sûr.
Mich m'écrit, je cite, « Vous avez tellement bien exprimé votre amour du Bob et de la banane que je vous envoie notre combo de l'été ». Et en effet, mes fans le savent, il y a 21 jours et 4 minutes, ils ont compté parce qu'ils sont fans. J'avais dénigré ici la tenue des bénévoles de Paris 2024 parce que ces salauds leur ont sorti des bobs. Et ça, ça va à personne. Liam Gallagher d'Oasis, les fois il en a porté un sur scène, sont les seules soirées où il est rentré seul à l'hôtel. Et là, petit bilan, Nagui, Leïla et vous autres les intermittents, est-ce que vous réalisez l'impact de la bande originale, qui est de plus en plus écoutée?
Bien
d'ailleurs,
sûr.
Le dernier sondage est dément. Je crois qu'à l'heure de l'émission, RTL diffuse même plus. Ils disent à quoi bon?
C'est vrai.
Bon, parce qu'attendez, hier je vous disais qu'Alan Stivell, après avoir entendu que je parlais de lui, était venu à mon spectacle. Là, je porte des bobs, on m'envoie des bobs, c'est du délire. Ils me font marrer les petits losers d'influenceurs avec leur place
placements de produits, tous ces puceaux qui passent leur vie sur le net. Moi, je suis à la radio, le média de ton papy, mais regardez, dès que je parle, ça tombe. J'ai la vie de Thibaut InShape sans avoir besoin de soulever de la fonte. J'ai un pouvoir énorme. Paul Mirabel, en 2 ans et demi, je l'ai cité 3 fois en tout, bah regardez, il peut remplir un stade de France en 20 minutes. Moi aussi, mais en 20 ans. Voilà, avec le souci majeur que le temps que les derniers achètent des places, les premiers seront morts. Donc en fait, le stade sera jamais plein. Et alors, suite de l'histoire, j'ai fait un post Instagram avec le Bob, la banane et les tongs. J'ai pas mis ces trucs-là sur moi, hein, parce que si je le fais, j'ai peur de croiser mon reflet dans le miroir et que le cœur ne tienne pas. Parce qu'à mon âge, faut pas que j'ai des émotions trop fortes. À la télé, je regarde plus que des racines et des ailes. Et encore quand ça porte sur une région pas trop rock'n'roll. Le Poitou, quoi. Quand Leïla Kaddour n'y est pas.
Ah, enfin, bref. Merci.
Donc moi, sur Instagram, j'ai quasiment pas d'abonnés. Hein, j'aime pas trop les gens et je pense qu'ils le ressentent. Donc ils s'inscrivent à des comptes de personnes plus gentilles, comme Éric Zemmour ou Hanouna. Mais là encore, ce post a fait un buzz dingue. Même si Gérard Larcher se filmait en train de déguster des lardons végétaux, ça ferait moins parler. Allons le saigner, mais ça a tourné, si bien que la presse locale m'a appelé hier pour réagir. Enfin, je pense que dans 2 ans, je peux prendre la mairie. Je comptais me présenter à Paris avec un programme fédérateur, faire tout le contraire d'Hidalgo. Mais ah tant pis, Lons, bah c'est très bien. Hein, c'est le Jura, on respire. En plus, à Lons, il y a le musée de la vache qui rit. Voilà, le saviez-vous. Ouais. Ça ressemble à la Joconde au niveau de l'humeur, mais il y a moins de file d'attente. Et puis Paris, qui a envie de vivre à Paris aujourd'hui? Franchement, c'est crade, ça pue. Jordan Bardella a même posté une vidéo de manif d'Afghans. Voilà que les Afghans manifestent. Alors, ça prouve qu'ils sont bien intégrés à la société française. Hein, quand tu fais bastination en gueulant, la suite logique, c'est le saucisson à l'ail et les RTT. C'est pas les Chinois qui manifesteraient, m'a dit tout à l'heure Mélodie Fontaine. Bon, en fait, elle a pas dit ça, mais maintenant que je connais la puissance de cette chronique, je lui fais de la pub. Hein, dans 4 mois, elle remplit l'hippodrome de Longchamp. Ils vont être obligés de décaler Rock en Seine. Non, mais Paris, on n'en peut plus. Tiens, j'ai lu dans le Parisien qu'un cadavre a été repêché dans la Seine ce week-end. Oui, c'est glauque. Et ça arrive régulièrement. En fait, le seul corps vivant à être plongé là-dedans, ça va être celui de Macron quand il va se baigner. Son petit plouf, ça va être gore. Tout ça pour vous dire que je prépare mon déménagement à Lons-le-Saunier. Il reste donc quelques jours aux autres villes pour m'envoyer des cadeaux qui me feraient les choisir, elles. J'aime le soleil. Donc, petit clin d'œil à Aix-en-Provence, Saint-Raphaël, Nice, Sanary-sur-Mer. À mon avis, là-bas, on a plus besoin d'un Bob hein, qu'à Lons-le-Saunier. Mais c'est fou le pouvoir de cette émission. Je comprends même pas que vous fassiez vos courses. Voilà, Bichette, si vous voulez une nouvelle planche de surf, vous me dites la marque. Je la cite. Franchement, n'allez pas l'acheter. Allez, moi, t'es Chandon, Ferrari, Kenzo, Relais et Château. Merci.
Et t'as quoi? Ah, t'as
bravo, Tanguy.
Unilise Lens.
Et Tanguy Pastureau, on se retrouve sur scène le 8 février à Pont-l'Abbé, c'est dans le Finistère.
Absolument.
La sortie du livre de Bichette Lizarazu, Vivre de sport pour rester en forme chez Flammarion. Vous allez commenter les matchs sur TF1 avec Grégoire Margoton, les 12 matchs de l'Euro. Ça veut dire là aussi beaucoup de préparation, beaucoup de fiches, je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, enfin après... On connaît la plupart des équipes, c'est pas très compliqué quand t'as...
On n'a pas encore la formation des équipes.
Non, mais je veux dire par là qu'on va pas commenter que la France, on va commenter voilà, l'Angleterre, l'Allemagne, donc les grandes équipes, on les connaît, c'est plus difficile sur les équipes, voilà, les nations moins connues.
Avec des noms difficiles à prononcer.
Ça, c'est plutôt amusant. On a une application avec Grégoire et avant les matchs, on s'amuse à faire les répétitions pour essayer d'avoir la bonne prononciation.
Et vous êtes d'accord pour dire que l'Euro est un niveau de foot plus élevé que la Coupe du Monde?
Non, je ne suis pas spécialement d'accord pour dire ça, mais.
Et on a quelle chance?
Non, puisqu'après, pour moi, le émotionnellement, faire une Coupe du Monde, c'est plus puissant. Donc,
bien sûr. Et quelle chance pour la France?
Chance de gagner. L'Angleterre, pour moi, est aussi une des meilleures équipes du tournoi. L'Allemagne s'est requinquée, on l'a vu, sur les matchs amicaux. Voilà, mais on a une équipe pour gagner. Donc j'espère que...
Et on va gagner.
On va gagner.
On est d'accord. D'autres événements culturels, Leïla?
On va en Italie, à Vérone, et on va au restaurant. Et franchement, si c'était pas si loin, j'en ferais volontiers ma cantine. Les restaurateurs, en fait, vous font un cadeau. En échange de quelque chose de bien précis.
Ah, ok.
On vous incite à faire quelque chose d'assez normal en réalité.
La vaisselle?
Non.
Non.
Alors moi, j'ai débarrassé.
Non plus.
Non, j'ai connu une pizzeria qui faisait le pizza tellement énorme que si on arrivait à la finir, on avait un cadeau.
C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quelque chose d'assez normal au restaurant qui devient de moins en moins normal.
Non, de laisser un pourboire.
Le livre d'or. Quand vous observez
au restaurant.
De ne pas être sur son téléphone.
Absolument. Voilà. Bonne réponse, Tanguy. Si vous laissez votre téléphone à l'entrée dans une boîte, on vous offre en échange une bouteille de vin.
Oh là, ça vaut.
Mais j'y vais. Et j'y reste.
L'idée, c'est de vous inciter simplement à avoir des.
C'est pour ça que tu parlais de cantine.
Mais bien sûr.
Bien sûr.
Je me suis dit, je vais aller dans la blague, l'alcoolisme. Donc, si vous
débarrassez de votre portable, vous le confiez à l'entrée, vous avez cette bouteille de vin et vous êtes incité donc à renouer naturellement avec les gens qui sont face à vous et d'oublier ce téléphone.
Plus on boit de vin, plus on renoue.
Et en plus, absolument, et on peut renouer très très fort même Tanguy. Ouais. Ça peut faire des portées.
Voilà.
À part le rapport au sport que vous avez un rapport complexe avec le téléphone portable, la connexion, l'hyperconnexion. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à vous toucher, vous, alors que vous semblez faire preuve de beaucoup de mental ?
Oui, un peu, parce que je t'ai passé de... Quand tu fais la revue de presse, tu es sur l'ordinateur, tu fais... sur Google, tu fais ton... Et après, tu le fais via les réseaux sociaux, et donc ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, tu t'aperçois que tu restes aussi très longtemps. Et heureusement que je fais beaucoup de sport, et heureusement que je ne peux pas amener mon téléphone, ou en tout cas le consulter.
En sortie vélo, vous ne le prenez pas ?
Non, si, je le prends, si j'ai un accident, s'il y a un problème. Mais pendant 4 heures, 5 heures, tu ne peux pas consulter ton téléphone. Carrément. Quand tu es en mer, tu ne peux pas consulter. Donc ça m'aide à sortir. Et pour les jeunes... faire du sport, c'est aussi sortir des écrans.
Absolument. Autre question, on cherche un élément qui fait partie de la routine des Espagnols. Et pourtant, ça perturbe leur vie au quotidien.
Le téléphone. Ça, il doit savoir, Vicente.
Pas le téléphone, c'est quelque chose qu'on espère avoir.
À la merienda, le fait de manger assez consistant à 10h,
10h. Non, mais un truc plus simple. Absolument, la sieste. La sieste, en réalité, est assez peu pratiquée maintenant par les Espagnols. Selon les derniers sondages, c'est à peu près 18% de la population. Le problème, c'est que cette pause de 2-3 heures dans l'après-midi, elle allonge la durée de travail des employés, ce qui fait que ça limite leur vie personnelle et familiale. Et bien sûr, ce sont les femmes qui en souffrent le plus, car elles sont en charge le plus souvent du foyer. Vous parlez de la sieste et du Tour de France, Michel T.
Il s'endort devant le Tour de France.
Et voilà, et vous faites réveiller par les clameurs des encouragements au haut du col.
Non, mais la journée parfaite en été, c'est de faire... 4-5 heures de vélo, de rentrer. Et là, en fait, c'est le Tour de France. Et on n'est pas encore sur l'école. Hein. On est sur ce moment où il ne se passe pas grand-chose. Il
n'y
a pas trop d'activité. Donc là, tu fais la petite sieste. Et puis après, tu arrives sur le col final. Et là, ça s'excite, ça s'énerve. Tu es réveillé et tu regardes. Voilà.
Et c'est étonnant, pendant votre carrière pro, il n'y avait pas de sieste. Vous n'en faisiez pas, en tout cas.
Non, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps.
C'était obligatoire aussi, quand même.
Non, c'est un temps calme, fallait quoi ? Fallait te rallonger ?
Je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon temps et j'y arrivais pas.
Jusqu'au bout.
J'y arrivais pas.
On va pas perdre son temps avec Alexis Le Rossignol, les nouvelles du monde.
Bon, ben moi je fais ni des films, ni des matchs de foot caritatifs. Merci Paul de me l'avoir rappelé. Ce matin, je remplace Jérémy Crédville, qui est en voyage. Voilà. C'est marrant, depuis que j'ai renoncé à prendre l'avion, je remplace ceux qui continuent à le prendre. L'avion est une grande force, apparemment, je suis le dindon. Voilà. Ça va les autres ? On va vous avoir jusqu'à la fin de semaine ?
Ouais.
Paul, fais gaffe, t'as une petite carrière qui démarre. Hein. Ce serait dommage qu'il t'arrive un truc. Vicente, je vous demande pas si ça va. Ça va, on le voit sur la page de couverture. On m'a remis votre livre.
Ouais.
La semaine dernière dans le bureau, pour que je le lise, ce que je fais dans les transports d'habitude. Mais là, j'ai pas pu. Hein. Ça met les gens mal à l'aise, tant de muscles sur les photos. En fait. Faut le dire à votre éditeur. Hein. Les hommes se disent « Merde, j'ai raté ma vie ou quoi ?» Et les femmes se rendent compte qu'elles sont entourées de losers bas de poitrine. Encore un bouquin qui divise, quoi. Comme si on avait besoin de ça en France. Moi, j'attends le livre d'un Migros. Un mi-saison, un type qui déculpabilisera tout le monde, avec des conseils avisés certes, mais surtout des conseils réalistes, où parfois faire la planche voudra dire découper du saucisson et du fromage, les disposer sur du bois et les bouffer.
Voilà. Je l'ai fait aussi.
Oui, aussi. Ouais. Ce qui fait mal en sport, c'est quand tu fais une activité sportive pour la première fois, que l'entraîneur te demande ton niveau physique, que tu dis moyen, pour pas non plus trop présumer de tes capacités, et que pendant l'activité, tu te rends compte que le groupe des moyens s'appelle groupe des moyens uniquement à cause de toi. Parce qu'en fait, tous les autres sont bons et toi, t'es médiocre. S'il y en a un dans le groupe d'ailleurs qui doute un peu de lui-même ou qui n'est pas dans un bon jour, en te voyant, tu peux être sûr que soudainement, il se sent beaucoup mieux. Quoi. J'ai essayé le ski de rando une année. On m'avait demandé mon niveau de ski. Bon, ben moi, j'avais dit moyen. Rapport au fait que par rapport aux gens qui skiaient très bien, j'étais très mauvais, mais que par rapport aux gens qui n'avaient jamais skié, par exemple ma grand-mère, j'avais un niveau excellent. Quoi. Le lendemain, j'arrive au point de rendez-vous, ils avaient tous leur propre ski. Alors ça, c'est un indice déjà. Quand t'es le seul à essayer de cacher les stickers pour Sport 2000, c'est que t'es pas entouré de types qui vont dire « Ça te dit qu'on commence par une verte pour s'échauffer ?» Non. Comme j'en ai chié. Bon, les types étaient sympas, ils m'attendaient. Mais dès que je les rattrapais, ils repartaient. Ce qui fait que j'ai jamais eu de pause, en réalité. J'ai passé ma journée à me prendre des pelles, à remonter la pente pour récupérer mes skis plus haut, à rattraper des types que je connaissais pas, à leur dire merci de m'avoir... Attendez, repartez pas si vite. Moi, je pense qu'on parle pas assez du patrimoine génétique en sport. Parce qu'il y a l'entraînement, c'est sûr, mais il y a aussi ce qu'on reçoit à la naissance.
C'est vrai.
Dans les courses hippiques, par exemple, si les chevaux sont pas d'une bonne lignée,
Ils les entraînent même pas. Bon, ben, chez les humains, c'est pareil. Parfois, faut assumer qu'on n'est pas d'une lignée sport et l'accepter. De temps en temps, je regarde du sport à la télé et je me dis, ça me fait du bien. Tu vois, c'est un indice aussi. À titre personnel, je pense que je suis plutôt d'une lignée méditation guidée en podcast. C'est mon activité préférée. J'ai découvert il y a 2 ans. Je m'allonge sur mon lit. Parfois même, je me mets dans les draps. Ça commence par de la musique toute douce. Ensuite, Jean-François, ancien cadre commercial burn-outé il y a 5 ans, commence à parler avec une voix lente et suave. Puis après, je sais pas, je me réveille 1 heure plus tard, j'ai pioncé comme un gosse. Donc voilà, c'est mon conseil du jour. Si dans l'expression « un esprit sain dans un corps sain », le côté corps sain vous emmerde un peu, eh ben essayez la méditation guidée, allongée dans votre lit, même en étant moyen dans l'activité, vous allez aimer.
Merci, Alexis Rossi.
Et où est le signal, jeudi soir à Genève, à partir de septembre, à la Gaîté Montparnasse, et c'est à Paris.
Vivre de sport pour rester en forme, se poser la question du pourquoi, se poser la question de comment aussi pour progresser, pour apprendre, pour le dépassement, et puis surtout la diversité. Moi, c'est vraiment l'une des leçons que j'ai retenues du livre, c'est ne pas se dire ce qui peut être le défaut quand on dit tiens, je vais mettre au sport, et de faire que le même sport pour aller trop loin, mais au contraire, rafraîchir un tout petit peu.
Construire son entraînement.
Voilà, c'est ça.
Ça n'empêche pas de prendre des coachs, de faire du yoga, tu prends des coachs de yoga, mais c'est toi qui construis ton entraînement.
Et chacun à son niveau.
Chacun à son niveau, si c'est de la marche, voilà, c'est de la marche ou du vélo.
C'est chez Flammarion, je le rappelle, les Jeux Olympiques et l'Euro sur Radio France avec vous comme consultant et sur France Info pendant tous les JO. Vous allez commenter donc sur TF1 les matchs de l'Euro. Juste trois questions, vous me répondez par oui ou par non. Mbappé au Real Madrid?
Oui.
Barcola en équipe de France pour l'Euro?
Oui.
La France gagnant.
Dédé, il va pas aimer parce que il aime bien
surprendre.
Non, c'est pas ça. C'est que, enfin, moi, je trouve que quand tu fais des grands matchs de Ligue des Champions, t'es pas loin du niveau international. Mais après, Dédé aussi un.
C'est le groupe après.
Il est pédagogue. Il veut pas que ça aille trop vite non plus pour pas que le joueur se grille.
Zizou, entraîneur du Bayern?
Je crois pas.
Vous avez un autre?
Mais moi, j'aimerais. Si tu veux savoir si j'aimerais, oui, j'aimerais beaucoup, mais je crois pas par rapport au problème de la langue.
La barrière de la langue. Des excuses à présenter.
Oui, désolé pour tous les auditeurs qui m'ont demandé si pour l'émission de demain, la régie pouvait ne pas ouvrir le micro de Nagui. C'est pas con. En tout cas, la demande est faite. Désolé aussi pour tous les auditeurs qui trouvent que la régie a un peu trop fermé le micro de Daniel Morin ce matin. Alors, non, c'est pas ça. Mais sachez qu'il me manque aussi et on pense à lui.
Pas
salut
du tout.
L'artiste.
Pas du tout.
Arrête. On
pense à toi là-haut.
Désolé pour mon ego qui en a pris un petit coup quand même quand je me suis reconnue dans les propos de Bichente Lizarazu quand il a parlé de profil super merde. Ah, ça fait mal et pourtant je suis beaucoup plus jeune que vous. Quoi ? J'ai dit une connerie ?
Merci beaucoup. Merci Bichette et Sarazo. Merci pour ce que vous apportez déjà dans les commentaires, ce que je trouve extrêmement brillant, je le redis, au-delà de l'amitié qui nous lie. C'est toujours passionnant d'écouter vos commentaires et les interviews que vous faites, que ce soit pendant les retransmissions ou dans Téléfoot. Chez Flammarion, vivre de sport pour rester en forme. Passez une belle journée.
Merci beaucoup.
Demain, c'est Olivia Ruiz qui sera notre invité. Est-ce que quelqu'un avait une question à poser? Parce que si quelqu'un voulait dire un truc à Bichente, vous avez le droit. Hein. Non, ça fait. On a tout dit.
Non, c'est par rapport à vous, Nagui. Vous nous avez tous interrogés sur notre rapport au sport, mais vous.
Voilà. C'est vrai, c'est une bonne question.
Voilà, et on n'a plus le temps.
Vous en faites, vous.
Dorothée,
en
fait.
Ce corps.
Dorothée, bah, je.
Ce corps.
Fais du gainage. Fais du gainage.
Voilà. Dorothée Barba.
Oui, bonjour tout le monde.
Quel sport, Dorothée Barba, pratiquez-vous?
Quel sport, Nagui? On n'a pas entendu la réponse.
Du gainage. Non, mais vous.
Alors moi je fais du pilates, de la course à pied et de la natation, figurez-vous.
Quand même,
voilà, ouais, raconter ma vie à la radio, vraiment j'adore.